autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour tutoyer les profondeurs, aujourd'hui en retenant notre souffle, dans le sillage de l'apnéiste Guillaume Néry, champion du monde d'apnée, l'homme qui marche sous l'eau et qui danse dans les abysses, ne court plus après les records et préfère plonger en osmose avec les cachalots ou les dauphins, renouant ainsi avec nos origines aquatiques. Pourquoi et comment faire de l'apnée, non seulement un art de vivre, mais aussi un outil de connaissance de soi et des autres, une plongée dans l'extraordinaire biodiversité du monde sous-marin, une exploration aussi de ses propres profondeurs, aux limites des capacités humaines. À partager sur la toile, dans les extraordinaires films de sa compagne, Julie Gauthier, apnéiste elle aussi, et dans un ouvrage superbe et inspirant à plein souffle qui vient de paraître aux éditions Glénat. Autour de la question « Comment retenir son souffle ?», bienvenue en apnée pour courir les grandes profondeurs avec Guillaume Néry et Beyoncé sur RFI. Bonjour Guillaume Néry.
Bonjour.
C'est bien vous dans ce clip Running de Beyoncé qui étreignait votre fiancé sous les vagues au terme d'une course haletante en apnée, évidemment. Ce qui est normalement impossible pour le commun des mortels, c'est pas impossible pour Guillaume Néry, pour vous.
Ça paraît facile quand on voit les images, mais c'est pas accessible à tout le monde de pouvoir se mettre dans l'eau, se laisser emporter par le courant, sans masque, en jean, avec un t-shirt, et essayer d'évoluer comme un terrien sous l'eau. C'est pas évident du tout, mais c'est une expérience qui est intéressante parce que du coup on mixe l'univers terrien, aérien, aquatique, et on crée l'illusion.
Ça vous plaît ça aussi? On vous appelle parfois l'homme dauphin, l'homme qui marche sous l'eau, voire sa majesté des profondeurs. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces qualificatifs, Guillaume Néry?
Ah, ce sont des étiquettes qu'on aime bien coller à l'univers de l'apnée. Alors ça passe par l'homme, voilà, l'homme dauphin, il y a l'homme poisson aussi. Moi je préfère rester plus humble et dire que je suis un humain d'abord, un homo sapiens. Peut-être un humain aquatique.
Un humain aquatique, ouais. Ou qui se rappelle de ses origines aquatiques.
Et exactement, nous avons des liens de parenté quand même assez forts avec les mammifères marins. On a des réflexes que l'on est capable de réveiller dès que l'on met la tête sous l'eau. N'importe quel être humain est capable de ça. Ces mêmes réflexes sont utilisés par les mammifères marins pour pouvoir réaliser leurs apnées très longues ou très profondes. Donc oui, il y a quelque chose, il y a une parenté qui est évidente, mais nous sommes développés depuis des millions d'années sur Terre, dans une vie terrestre, mais malgré tout, nous gardons ce lien. Et ce lien-là, c'est celui que j'essaye de raviver à chacune de mes immersions.
Ouais, de raviver, de retrouver. Merci en tout cas Guillaume Néry d'avoir profité de votre passage sur Terre, on va dire à Paris. Vous vivez entre Nice et la Polynésie. Et d'avoir profité donc pour faire escale dans notre studio autour de ce superbe ouvrage Néry à plein souffle, paru chez Glénat. C'est un tour du monde, des profondeurs, un hymne au monde sous-marin et à son extraordinaire biodiversité, illustré, magnifiquement illustré, le mot n'est pas trop fort, par les superbes photos sous-marines de Franck Séguin. Et puis il y a aussi un film qui l'accompagne, très attendu de millions d'internautes qui vous suivent. Ça sera le 1er février, One Breath Around the World, tourné par votre compagne Julie Gauthier, apnéiste elle aussi. Et ce sont ces films d'ailleurs, tous les clips que vous avez réalisés ensemble sous l'eau, qui vous ont rendu célèbre. Il faut dire qu'en les regardant, c'est nous, alors à la radio c'est compliqué, mais c'est nous qui avons vraiment le souffle coupé devant tant de beauté. L'apnée pour vous, c'est quoi, Guillaume Néry? C'est un art de vivre? C'est une philosophie de vie? C'est bien plus qu'un sport?
Complètement. Ça a débuté pour moi comme un sport. Mes premières expériences d'apnée, ça a été un défi, ça a été une manière d'explorer les limites de mon corps. C'était une manière de transgresser aussi les lois de la nature. Alors à l'adolescence, on aime bien tout transgresser, et là, en arrêtant de respirer, finalement, on transgresse la règle fondamentale pour un mammifère terrien. Et Et puis ensuite, ça s'est transformé en une quête de performance, une quête sportive qui amène à se progresser, à trouver les...
Double champion du monde, des records du monde.
Voilà, des records du monde, participation à de nombreux championnats du monde. Et c'est une aventure qui était passionnante. Mais en parallèle, j'ai toujours eu des aspirations artistiques aussi, parce que je trouve que le monde sous-marin, le monde sous la surface, a quelque chose de très poétique, de très esthétique. Et donc, même sans caméra ou sans photographe, j'ai toujours aimé évoluer, essayer de me mouvoir dans l'eau
sans aucun équipement,
tout à fait.
Ça voilà. Vraiment, il y a plus de barrières là, j'imagine.
Bah, l'idée, c'est d'essayer de casser les barrières, justement, de réunifier l'eau, l'air, la terre, et donc dans les films que l'on fait, on essaie justement de partager cet art de vivre, cette philosophie de vie, mais de manière esthétique, en essayant de ne pas être dans une démarche documentaire, mais plutôt vraiment une démarche artistique, poétique, onirique, pure.
Nous faire rêver autour de la question pourquoi et comment retenir son souffle. Donc avant de faire ces films subjugants, vous avez commencé, vous l'avez dit Guillaume Néry, par battre tous les records d'apnée. Petit rappel des faits avec ce portrait sonore réalisé par Hugo Violas avec la Sonothèque de RFI.
Parti. Guillaume Néry, 19 ans, vient de plonger. Le jeune apnéiste palme sans aide jusqu'à 80 mètres de profondeur, sans respirer. Et à la remontée, c'est du pur plaisir. Guillaume, vous allez tenter un nouveau record au mois d'août. Vous espérez aller jusqu'où ?
Jusqu'à ce qu'on atteigne les limites. Non, c'est vrai que là, cet été...
Là, vous êtes à moins 87 mètres.
Moins 87. Cet été, je vais essayer d'aller un mètre plus bas que le record. Donc là, ça va être 94. Mais sur le long terme, c'est vrai que le chiffre des 100 mètres, j'y pense.
Le record du monde de plongée en apnée avec palme, battu aujourd'hui par le français Guillaume Néry, 24 ans. Il est descendu à moins 109 mètres entre Villefranche-sur-Mer et Nice, le tout en 2 minutes 50 secondes.
Guillaume Néry est allé trop loin hier aux Mondiaux au large de Chypre. Il a fait une syncope en remontant, tout ça à cause d'une erreur des organisateurs.
Guillaume Néry, héros amphibie entraîné dans une chute vertigineuse dans les abysses. Ces images, tournées aux Bahamas en 2010, dans le trou le plus profond du monde, sont l'œuvre de Guillaume et de sa compagne Julie Gauthier.
La danse sous l'eau, c'est vraiment tout sauf de la nage. Je veux retirer tous les mouvements, ce que j'appelle parasites, pour essayer vraiment d'amener le mouvement dansé dans l'eau.
Danser sous l'eau, en apnée, dans les plus grandes profondeurs, avec Julie à la caméra. Effectivement, c'est de la danse. Guillaume Néry, il n'y a pas une bulle en plus, parce qu'elle est apnéiste comme vous. Donc, les images sont extraordinaires. Plus que les records, c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui.
Je n'ai pas envie de mettre de hiérarchie.
Parce que
je suis encore capable d'aller plonger avec les copains de mon club et d'être vraiment dans une quête aussi très personnelle. J'aime toujours tutoyer avec les profondeurs.
Vous allez d'ailleurs participer au prochain championnat du monde, du côté de chez vous d'ailleurs. Vous allez renouer avec ces records, parce qu'il faut dire aussi que vous avez arrêté la compétition suite à un accident de plongée. On l'a entendu dans ce mix, mais un câble trop court qui a failli vous coûter la vie.
Trop long. Non, c'est un câble trop long
qui avait 10 mètres de trop.
10 mètres de
trop,
oui, c'est ça. Et je tentais un cinquième record du monde et je ne me suis pas vraiment rendu compte que le câble a été mal mesuré et je me suis retrouvé 10 mètres plus loin.
139 oui. mètres de profondeur, non, j'arrive même pas à le dire, et sans aucune bouteille de gaz et en apnée.
Oui, 139 mètres de profondeur alors que je voulais faire 129, donc forcément à ce niveau-là, 10 mètres de plus, voilà, on a à peu près à 10% d'erreur, c'est énorme et forcément j'ai pas pu valider ce record, j'ai eu un accident à la remontée. Et c'est
vous
sûr que ça a mis un coup d'arrêt à ma quête de record, à mon approche de la compétition. L'année dernière, j'ai refait une compétition où j'ai plongé à 105 mètres, mais avec la particularité d'y aller à nu presque, c'est-à-dire sans combinaison, juste en maillot de bain dans les eaux de la Méditerranée, où le froid va nous saisir le corps dans les grandes profondeurs. Donc c'était un défi qui allait au-delà du chiffre et de la compétition, finalement.
Mais c'est un défi vis-à-vis de vous-même?
Oui, c'est un défi.
C'est vraiment aux limites?
Je ne suis pas dans cette idée de limite, je suis dans cette idée de compréhension, de maîtrise du corps et du mental. Et une plongée comme celle-ci à 105 mètres en maillot de bain, c'est un véritable défi à la fois mental, puisque bon, il n'y a pas trop grand monde qui l'avait fait avant, donc on se dit, ah, c'est pas possible, c'est trop froid, c'est pas agréable, c'est ingérable. Et ça m'intéressait justement d'arriver à transformer cette expérience en une belle expérience, parce que j'aime bien me baigner toute l'année en maillot de bain, même dans les eaux froides. J'aime bien aller nager dans les rivières, même sous la glace.
Mais qu'est-ce que vous recherchez sous la glace, justement? Qu'est-ce que vous recherchez? Vous dites que ce n'est pas les limites, c'est quoi? C'est d'arriver à museler votre mental et votre corps, à en faire une expérience agréable au bout du compte, de quelque chose qui semble impossible, insurmontable.
Alors, ce qui fait que ça paraît impossible, insurmontable, c'est l'idée que l'on s'en fait. Donc, c'est vraiment une construction mentale. Or, de toutes les expériences que j'ai pu faire dans différents domaines, je me suis rendu compte que sortir finalement d'une zone assez confortable, rentrer dans des expériences de privation, j'ai déjà fait des jeûnes par exemple, l'apnée, c'est la privation d'air aussi. Et finalement, ces expériences-là, et donc l'eau froide, c'est la privation de la chaleur. Du moment qu'elles sont contrôlées, mesurées, dans un espace de temps qui n'est pas dangereux, et si on arrive à outrepasser les craintes qu'il y a autour de ces défis, on peut les appeler défis, derrière, il y a des adaptations qui se mettent en place au niveau du corps humain. C'est comme si le corps se mettait dans un mode de survie. Et ça devient une expérience qui est presque spirituelle, où on arrive à être vraiment bien. C'est pas de la douleur. Je vais pas faire ça pour repousser le seuil de la douleur. Pas du tout. Quand je vais sous la glace et que je suis en maillot de bain, ou quand je descends à 105 mètres en maillot de bain dans la Méditerranée, je vais au-delà de cette idée de la douleur. Bien sûr que...
Au fond, c'est presque plus une question mentale qu'une question physique. Enfin, ce que vous avez l'air de dire, c'est que si on s'entraîne, le corps peut s'adapter, si le mental est d'accord.
Le corps peut s'adapter, et si on crée la condition mentale d'acceptation de ces conditions-là. Et c'est très intéressant de travailler là-dessus. Et l'apnée, c'est la même chose. Arrêter de respirer quand on ne sait pas et qu'on se dit que c'est pas naturel, dès qu'on va ressentir la moindre première envie de respirer, le mental va prendre le dessus, va nous envoyer tout un tas d'alertes en disant c'est pas normal, je vais mourir, je suffoque, et ça devient un cauchemar. Et nous, justement, par un travail de concentration, de répétition, on arrive à se rendre compte, bah oui, effectivement, il y a une information qui est là, mais on arrive à aller bien au-delà. Et c'est pas du masochisme, c'est important quand même de le préciser. Quand je vais sous la glace, ou que j'arrête de manger pour faire des expériences de jeûne, ou que j'arrête de respirer, c'est une expérience de contrôle sur soi et qui permet d'accéder à un niveau de conscience qui est fabuleux.
On va y revenir autour de la question comment retenir son souffle. Il y a eu chez vous un déclic pour commencer à faire de l'apnée. Il y a un plongeur, un apnéiste qui vous a particulièrement inspiré. Il s'appelle Umberto Pellizzari, si je ne m'abuse. C'est en le voyant à la télé, en entendant peut-être ce reportage-là diffusé dans Thalassa en 1996, que vous avez décidé de faire de l'apnée. On l'écoute.
Moi, je plonge, je descends profond, surtout pour moi. C'est surtout un challenge avec moi. C'est la grande passion pour la mer. Et seulement après, devient un challenge avec Pipino ou les autres apnéistes. Quand tu arrives au fond, tu veux rester là. Plus profond tu descends et plus fortes sont les sensations que tu retrouves quand tu descends. Et tu as seulement des sensations de plaisir, pas de douleur. C'est pour ça que moi j'aimerais bien rester plus longtemps au fond.
Umberto Pellizzari parle comme vous, Guillaume Néry, de plaisir. Lui, il aimerait rester plus longtemps au fond. C'est un sentiment que vous avez éprouvé aussi.
C'est certain que quand les conditions sont réunies, on est bien sous l'eau, vraiment, on est bien, on ressent un sentiment d'harmonie, de temps suspendu, et Oui, on a envie de rester plus longtemps, tout en étant conscient que c'est pas notre place non plus et qu'il faut remonter. À aucun moment.
Mais c'est pas s'oublier soi-même, c'est
non.
pas ça. Hein.
Bah, il ne faut pas. Il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas s'oublier parce qu'il y a quelque chose de bien plus précieux que tout ça, qui est notre vie. Et notre vie, qu'on le veuille ou non, elle se passe quand même sur Terre. Elle se passe dans un milieu aérien. Mais vivre pleinement ces secondes, ces minutes que l'on passe sous l'eau, c'est des grands moments de bonheur, mais ils ne sont possibles que parce qu'on remonte.
Et qu'est-ce qu'on ressent quand on descend, justement, enfin quand on s'entraîne, parce qu'il faut s'entraîner hein, pour arriver à être apnéiste. Vous arrivez à tenir combien de temps sans respirer, ce qui est inhumain, hein, on le rappelle. Combien de temps sans respirer, Guillaume Néry?
Quand on fait de l'apnée, ce qu'on appelle l'apnée statique, donc vraiment on arrête de respirer, on ne bouge pas et on tient le plus longtemps possible. Pour ma part, c'est presque 8 minutes, entre 7 minutes 30 et 8 minutes.
Wow. 8 minutes sans respirer.
Ça, c'est c'est une des composantes de l'entraînement, mais tout ne se joue pas là, parce que dans la discipline que je pratique le plus, donc c'est l'apnée en profondeur, en poids constant, c'est-à-dire en palmant, pour descendre et en palmant pour remonter. Donc aucune aide extérieure, c'est seulement la manière naturelle, avec la propulsion physique que l'on y arrive. Ben là, on consomme beaucoup d'énergie, forcément. Les muscles consomment de l'énergie, donc on reste beaucoup moins longtemps. Et il y a d'autres paramètres que l'on doit entraîner, la capacité de réduire l'activité du corps humain, ralentir le métabolisme, avoir une consommation très faible, malgré la nécessité de faire du mouvement.
Et on peut le réguler, ça, en faisant quoi comme exercice du yoga, de la méditation, de la respiration
Alors, ça, yoga, méditation, respiration, évidemment, ce sont des composantes fondamentales de la pratique, mais il n'y a pas que ça. Souvent, on pense qu'on ne fait que ça. Or, pour être capable d'avoir des muscles qui fonctionnent en utilisant peu d'énergie, bah c'est de l'entraînement, c'est de la répétition d'efforts musculaires en apnée, qui peuvent se faire en natation, qui peuvent se faire en piscine, où on fait des apnées répétées sous l'eau. On peut même faire des exercices qui s'apparentent un peu à de la torture, il faut l'avouer des fois.
C'est les exercices au fond qui sont de la torture.
Oui, les exercices de préparation, et on doit passer quand même par des phases qui peuvent être de souffrance. Et donc ça, j'aime bien les faire à l'extérieur de l'eau. Tout ce qui est difficile et qui amène de la souffrance, je le fais à l'extérieur de l'eau pour que quand je sois dans l'eau, ça ne soit que du pur plaisir. Donc par exemple, faire des séries en apnée sur un vélo d'appartement. Donc on va travailler le muscle, on va travailler un effort physique, mais en essayant de réduire le nombre de ventilations, en faisant des longs temps d'apnée. Ça fait partie, c'est le côté moins glamour de la pratique, mais qui nous permet d'être...
Ce qui veut dire que... alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais que ça se travaille vraiment.
Ah bah bien sûr, moi c'est plus de 20 ans de pratique, d'entraînement quotidien, c'est un entraînement sportif de haut niveau, hein, ni plus ni moins, auquel on va rajouter effectivement cette dimension de yoga, de respiration, de travail sur la souplesse du corps, parce que quand on plonge en grande profondeur, on est soumis à une pression qui est énorme. Et donc cette pression, bah, il faut l'accepter. Et pour l'accepter, il faut être souple. Donc le yoga,
le stretching...
Il faut
l'accepter avec la tête et avec le corps.
Les deux,
finalement,
les deux.
C'est ça. Hein.
Avec la tête et avec le corps. On peut être souple au niveau du corps. Si la tête ne l'accepte pas, on va se crisper. Et à l'inverse, on peut être parfaitement prêt mentalement si le corps n'est pas entraîné. Les tissus, vraiment les articulations ne sont pas huilées pour accepter cette déformation. Bah, ça ne fonctionne pas. Donc les deux vont ensemble toujours. Le corps et l'esprit travaillent main dans la main.
Parce qu'on est des terriens, qu'on est de l'eau, mais pas que. Je propose d'écouter François and the Atlas Mountain sur RFI. Je suis de l'eau.
Je suis de l'eau, je suis de l'eau, je suis de l'eau, je suis de l'eau.
Je suis de l'eau, c'est François N. The Atlas Mountain qui le chante sur RFI. Et c'est pas vous, Guillaume Néry, célèbre apnéiste, qui dirait le contraire, j'imagine.
Quand on prend les chiffres de la physiologie, hein, ça, tout simplement, on est, le corps est composé à 70% d'eau, donc je pense qu'il est dans le vrai.
Et puis, nous sommes, on a été des mammifères aquatiques, en tout cas, tant qu'on est dans le vent de notre mère, hein, on baigne dans le liquide intra-utérin jusqu'à notre naissance, mais après, ça se passe autrement. Autour de la question pourquoi et comment retenir son souffle, l'apnée ne nous est évidemment pas naturelle. C'est justement tout le sens de la question que vous pose tout de suite la microbiologiste Muriel Thomas de l'INRA.
Ce qui m'étonne toujours, en fait, et la question que je me pose toujours, peut-être un petit peu naïvement, c'est comment les poumons peuvent gérer les différences de pression qui sont imposées dans le cas d'une plongée très profonde.
Votre réponse, Guillaume Néry, comment on gère cette descente puis cette remontée ?
Alors, je dirais qu'il y a trois facteurs. On en parlait à l'instant. La notion de souplesse au niveau des tissus. Donc les poumons sont solidaires de la cage thoracique, donc qui est assez rigide. C'est les côtes, c'est le sternum, c'est la colonne vertébrale. Donc c'est une enveloppe qui est là pour protéger, mais qui est quand même là aussi pour être souple, malléable, pour pouvoir permettre la ventilation.
Mais quand on respire, ça s'écarte et ça se resserre.
Quand on respire, ça s'écarte, ça se resserre, ça permet de remplir les poumons, de les vider. Et travailler sur cette souplesse de la cage thoracique, ça va permettre aux poumons de pouvoir accompagner cet écrasement. Le poumon en soi, c'est un tissu. Mmh. C'est un tissu tout mou. Si on décolle le poumon de la plèvre, c'est tout mou, c'est malléable.
C'est la carapace
qu'il faut arriver à travailler. Mmh. Donc déjà, il y a cette souplesse-là qui est importante et qui fait partie vraiment de l'entraînement. Ensuite, on expliquait aussi, il faut être détendu au niveau du mental, c'est-à-dire accepter cette pression, et du moment qu'on accepte la pression, on va permettre finalement à la cage thoracique, à tous les muscles qu'il y a autour, de se relâcher, de se détendre, et donc d'accompagner cette souplesse. Et puis enfin, il y a un phénomène d'adaptation que l'on a découvert assez tardivement, finalement, que l'on a découvert chez les mammifères marins, et on s'est rendu compte qu'il y a la même chose chez les humains, qui s'appelle en anglais le blood shift. Alors le principe du blood shift, c'est quoi ? C'est qu'à partir du moment où la pression va comprimer le volume pulmonaire au-delà du volume résiduel. Bon, là, je rentre un peu dans des termes un peu plus poussés, mais en
ça
gros,
comprime plus que prévu,
plus que ce que l'on est capable. En théorie, les poumons sont capables de se remplir et de se vider, mais ne se vident jamais complètement.
D'accord.
Il y a toujours un volume d'air qu'on appelle le volume résiduel. Et quand la pression s'exerce, va avoir un impact donc sur le volume des poumons, et que on arrive à ce volume résiduel, en théorie, c'est ce que prédisaient d'ailleurs à l'époque les scientifiques et les médecins qui ignoraient ce phénomène de blood shift, on est censé ne plus pouvoir descendre. En théorie, les poumons,
ça s'arrête,
ça
quoi,
s'arrête,
c'est
sinon on implose. Ça, c'était ce qui était écrit sur le papier. D'ailleurs, c'est en ces mots qu'ils prévenaient Jacques Mayol et Enzo Majorca, les pionniers à l'époque, en leur disant mais si vous allez au-delà de 50 mètres,
vous allez
imploser. Ils y sont allés et ils sont revenus avec d'autres calculs en disant finalement c'est 100 mètres la limite. Et puis ils sont allés au-delà. Et grâce à eux, qui sont allés au-delà, on a découvert qu'il y a un phénomène mécanique qui se met en place pour empêcher finalement cet affaissement. La paroi des poumons, qui est extrêmement vascularisée, va se gorger de sang et donc elle va s'épaissir.
D'où le blood shift.
C'est ça le phénomène de blood shift. Finalement, la paroi des poumons va gonfler et va créer une espèce d'armure et va permettre la déformation. Il va permettre la réduction de ce volume qui est normalement incompressible. Et ce blood shift, il doit s'entraîner de manière très lente. C'est pour ça qu'on progresse très très lentement dans le temps. Parce que c'est quand même pas très naturel au départ. Les poumons ne sont pas faits, la paroi des poumons n'est pas faite pour recevoir cet afflux de sang. Ça peut aller jusqu'à un litre de sang. Donc c'est absolument énorme. Et
c'est douloureux ? C'est pas
du tout, c'est absolument pas douloureux. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des capillaires qui est dans les poumons, il y a plus de sang qu'à la normale. Et il faut savoir que les échanges gazeux se font au niveau des alvéoles. Et l'oxygène qui rentre au niveau des alvéoles, va passer au travers d'une paroi qu'on appelle la paroi alvéolo-capillaire. Et c'est là que les échanges se font. Et donc la paroi, elle est très fine. Et quand il y a un afflux de sang, il ne faut pas grand-chose finalement pour qu'il y ait du sang qui passe des capillaires dans l'alvéole. Et là, on se retrouve avec un œdème. Et en fait, c'est l'incident qui peut arriver assez fréquemment chez l'apnéiste qui veut aller trop vite, qui ne respecte pas l'adaptation du corps, qui veut aller en quête d'un record alors qu'il n'est pas vraiment prêt. Et on a pu avoir pas mal d'incidents et de problèmes autour de ces petits œdèmes de poumons. Et la seule réponse qu'il y a à ça, c'est la patience. Et donc on progresse lentement dans le temps.
C'est vraiment une leçon de vie d'être apnéiste. D'après ce que vous dites, il faut éduquer son corps, il faut éduquer son mental. Quand on plonge dans les profondeurs, j'ai l'impression qu'on plonge aussi dans les profondeurs de soi-même. Enfin, jusqu'où on est capable d'aller, comment on peut maîtriser l'angoisse, la peur.
Oui, mais c'est un véritable voyage intérieur. On se retrouve face à tout un tas de choses qu'on n'est pas habitué à voir finalement. Dans le quotidien, c'est vrai qu'on vit dans une espèce de frénésie où on est hyper connecté à la technologie, totalement déconnecté de l'essentiel, c'est-à-dire de nous-mêmes, savoir déjà prendre conscience qu'on respire et qu'on peut reprendre contrôle de cette respiration.
Oui, parce que c'est complètement automatique, mais en même temps, on peut avoir un rôle là-dessus.
Voilà, c'est le seul mécanisme autonome sur lequel la digestion, par exemple, bon, on va rien pouvoir faire sur les organes de la digestion. Ils vont travailler de manière autonome, sans notre volonté. La respiration, c'est pareil, heureusement, parce que si on devait penser à respirer pour survivre, ça serait compliqué. Mais c'est la seule fonction sur laquelle on peut reprendre le contrôle. Et donc, en fait, l'apnée, ça va être un voyage là-dedans. Ça va être un voyage sur l'importance de la respiration, par exemple, l'impact que peut avoir cette prise de conscience de la respiration sur tout un tas d'autres fonctions physiologiques, le rythme cardiaque, l'activité au niveau cérébral. Une apnée, une immersion, c'est à un moment donné se retrouver dans une forme d'emprisonnement, au final. On est tout seul dans l'eau. On ne peut pas s'échapper. Et donc, on se retrouve face à face avec soi-même.
Bien sûr, avec une pression.
Avec ses peurs, avec ses démons. C'est une expérience qui va bien au-delà de la simple expérience sportive. Et c'est pour ça que ça touche tous les gens qui essayent. Et même la simple apnée statique dans une piscine, où on va dire, bon, c'est pas très exotique, et ben, c'est une plongée en soi. C'est une plongée où on va se détendre, c'est une plongée où enfin on va prendre conscience qu'on est capable de se laisser aller, de se relâcher. C'est vraiment au-delà du loisir, c'est une activité que je dirais presque thérapeutique.
Activité thérapeutique, quand on regarde vos films, se réaliser avec votre compagne Julie, moi je trouve ça assez thérapeutique, ça donnerait presque envie, alors que je ne sais pas si tout le monde a envie de tutoyer les profondeurs et ses profondeurs, mais peut-être qu'il serait intéressant d'apprendre, justement, de l'apnéiste que vous êtes. C'est tout le sens de la question de Cécile Lestienne, du mensuel Cerveau et Psycho.
Est-ce que vous conseilleriez à tout le monde d'apprendre à respirer ?
Votre réponse, Guillaume Néry ?
Sans aucune hésitation, je réponds par l'affirmative. Reprendre le contrôle sur cette fonction primaire, mais en même temps qui est tellement essentielle. La respiration, ça n'apporte que des bienfaits. Que ça soit pour le sédentaire qui n'a pas forcément une grande activité physique, c'est intéressant parce que c'est finalement le premier moyen pour se reconnecter à son corps. Les sportifs ont déjà un rapport à leur corps finalement, un rapport à leurs muscles qui fonctionnent, à la respiration imposée par l'effort. Mais quand on est sédentaire, c'est vrai que finalement, on se rend compte que la respiration, c'est pas que la cage thoracique, c'est aussi le diaphragme. C'est une manière de s'ancrer au niveau du sol. C'est une manière de méditer. Parce que finalement, on porte notre attention sur un truc très simple. Dans notre vie de tous les jours, on pense à plein de choses. On pense aux erreurs du passé, on pense à tout ce qu'on a à faire dans le futur. On est sans cesse dans une espèce de rumination du mental. Et puis quand on se dit, on va juste penser à respirer, finalement, ça permet de calmer un peu tout le reste et de se rendre compte que, il y a cette fonction-là, la respiration qui est très simple, mais qui en même temps est infinie à explorer.
À quoi vous pensez ? Est-ce qu'on pense quand on est en apnée, sous l'eau, à 100 mètres de profondeur. Alors, qu'est-ce qui passe dans la tête ?
En fait, c'est comme une méditation. Je ne pense pas à autre chose que ce qui est en train de se passer dans l'instant. Donc je suis concentré sur mes sens. Donc, je sens la pression qui m'écrase, je sens la vitesse de l'écoulement sur la peau. J'ai une conscience du temps qui passe aussi.
Qui ne doit pas avoir la même durée que sur Terre.
Enfin... Bah, c'est, du coup, alors, ça devient une conscience aiguë et on a une vraie sensibilité à chaque seconde qui passe. Finalement, on est dans une conscience assez proche du réel, de qu'est-ce que la seconde qui passe.
En même temps, vous avez parfois aussi, je crois... certaines hallucinations. Un neurologue belge très très connu qui travaille sur les états modifiés de conscience, sur les gens dans le coma, Steven Lorenz, vous l'intéressez beaucoup. Enfin, je crois qu'il est venu étudier aussi vos sortes d'hallucinations.
On a travaillé ensemble. Non, on n'a pas travaillé là-dessus. D'accord. Avec le professeur Lorenz. On a travaillé sur la modification dans le processus de ventilation, de préparation à l'apnée et dans un protocole de répétition d'apnée assez poussée, quelles étaient les modifications au niveau de l'activité du cerveau. Alors pas sous l'angle de la narcose ou de l'ivresse des profondeurs, parce que l'ivresse des profondeurs est en lien avec la profondeur. Là, on a fait ces tests à l'air libre. Donc c'est vraiment en lien avec l'arrêt de la respiration. Alors, il a fait des tests aussi sur le cerveau de Mathieu Ricard, donc le grand méditant, moine bouddhiste Mathieu Ricard. Et donc je pense qu'il voulait voir dans le cerveau de personnes qui ont des activités qui sortent un peu de l'ordinaire, comment
et
ça fonctionne.
Et qui arrivent à prendre le contrôle de, effectivement, de leur respiration et dans d'autres états. Parce que l'ivresse des profondeurs, vous l'avez connu,
Guillaume Néry ? Oui, je l'ai connu, pas forcément avec le plus grand des plaisirs, parce que
c'est
une perte de contrôle finalement. Ouais. Là où on est dans la recherche de contrôle, de maîtrise, il faut accepter là, qu'on perd un peu le contrôle. Et surtout que c'est un moment où finalement il y a plein de choses enfouies dans l'inconscient qui peuvent se révéler et ça nous échappe. Donc des fois ça peut être agréable, des fois ça peut être très anxiogène. Et on ne savait pas que ça pouvait arriver aux apnéistes. En plongée bouteille, donc quand on respire de l'air sous l'eau, c'est assez connu comme phénomène. Quand on passe les 40-50 mètres, tout le monde y a été confronté. En apnée, on a découvert ça dans les grandes profondeurs, plus de 90-100 mètres. Et moi, j'ai mis du temps avant de me familiariser avec ce phénomène, avant de l'accepter et finalement de qu'il fasse partie de la plongée.
Quelle est la plongée la plus surréaliste que vous ayez faite? Moi j'ai une petite idée hein, dans ce livre, à plein souffle, vous plongez dans une faille gigantesque au Mexique. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'était laquelle la plongée la plus surréaliste que vous ayez faite?
Oh là, il y a tellement de plongées extraordinaires. Effectivement, quand je plonge au Mexique, là, dans ces cénotes, notamment le cénote de Chicamol, là, qui est dans le Yucatan, là, c'est une immersion dans un autre monde. On est dans l'eau, mais on ne se rend même plus compte qu'on est dans l'eau. Là, c'est un monde qui est à la fois minéral et à la fois assez végétal, parce qu'il y a des branches, il y a la forêt autour et des arbres qui sont tombés à l'intérieur. On ne sait vraiment plus où on est. Après, si je dois en retenir vraiment une seule d'expérience surréaliste, elle est également dans le livre, elle a été documentée, cette expérience, grâce au miracle les capacités incroyables de Franck Seguin, qui est à l'affût du moindre instant.
Photographe apnéiste
C'est un photographe qui travaille essentiellement en apnée. Il me suit, on se suit depuis 12 ans. C'est un photographe de sport à la base. Il a photographié tous les plus grands sportifs sur Terre, mais sa passion... c'est d'aller photographier l'apnée.
Et donc,
quand on est allé sur notre première expédition de cette aventure, c'était à l'île Maurice, avec les cachalots. Et notamment dans un moment assez fort où les cachalots se reposent. Donc on dit qu'ils se mettent en chandelle. Et donc ils se mettent dans une espèce de position verticale, parfaitement verticale, complètement immobile, tête vers le haut. Et on a même pas l'impression que ce sont des mammifères marins. On voit des monolithes dressés en plein milieu de l'eau. Ils sont tous alignés ensemble, ils se reposent en même temps. Et on voit notamment une photo où ils sont 3-4 comme ça alignés. Et puis moi, je suis au milieu en essayant de les observer. Et là, j'ai l'impression d'assister à une expérience du troisième type. Là, je ne suis plus sur Terre, je suis dans un film de science-fiction. Voilà, c'était extraordinaire.
On retient notre souffle en vous imaginant à la radio, au milieu des cachalots dressés, et en nous laissant inspirer par Björk, une artiste chère à votre cœur, Guillaume Néry. Le morceau s'appelle « Yoga ».
Autour de la question sur RFI. All these accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel.
Björk sur RFI, c'est votre univers musical, hein, j'ai envie de dire, Guillaume Néry, l'apnéiste que vous êtes. Rien qu'en entendant Björk, on vous voit presque plonger sous l'eau, dans les profondeurs, autour de la question pourquoi et comment retenir son souffle. On a compris que l'apnéiste que vous êtes ne cherche plus les records, mais plutôt l'osmose avec les autres mammifères. Dans votre livre À plein souffle, on peut effectivement vous voir plonger avec les cachalots de l'île Maurice. Moment incroyable qui est aussi, je crois, visible dans votre film à sortir, One Breath Around the World. On vous voit aussi plonger avec les requins en Polynésie.
Complètement, les requins, ce sont les, voilà, ce sont les seigneurs des mers, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire et ils cristallisent pas mal de peur du monde sauvage chez les humains. Et ils sont, c'est vrai qu'ils n'ont pas une très bonne réputation malheureusement, et pourtant ils sont dans un cas très critique. Ils sont en voie d'extinction. Je crois qu'on regarde les chiffres, c'est affolant. Hein. 90% des requins ont été décimés, soit pour leurs ailerons, pour les soupes aux ailerons en Asie, soit victimes collatérales de toute la pêche industrielle.
Victimes parfois aussi de la pollution sonore, hein, une pollution qui est souvent longtemps passée inaperçue, Guillaume Néry, sous l'eau et jusque dans les grandes profondeurs. C'est pas vraiment le monde du silence, hein, même si pour nos oreilles humaines, c'est le monde du silence. Vous, dans l'eau, vous entendez quelque chose
Ah oui, c'est un univers sonore plein de vie. On entend tout, l'activité dans les failles, dans les roches, les poissons, dans les coraux, il y a des crépitements. Et puis, sans parler, on a eu la chance en Polynésie d'être pendant la saison des baleines, de ce chant des baleines vraiment qui inonde tout l'espace. Il y a les cachalots qui aussi communiquent. Donc, c'est vrai que le son sous l'eau se propage très vite et le monde sous-marin est inondé de sons.
Et justement, ce monde sous-marin est aussi inondé de nos propres sons, de nos activités humaines. Il est perturbé par cette pollution sonore. Baleines, dauphins, cachalots ont du mal à communiquer, à s'entendre, si j'ose dire. C'est l'éclairage du bioacousticien Michel André qui dirige le laboratoire d'application bioacoustique de l'Université de Catalogne. Et il a été l'un des premiers à s'intéresser à cette pollution sonore sous-marine. Il est aujourd'hui coordinateur du programme LIDO, Listen to the Deep. À l'écoute des profondeurs.
Le son, c'est la vie. C'est le seul support de communication que les habitants de la mer disposent pour parler. Et si nous polluons ce canal, nous condamnons cette mer à un déséquilibre irréversible.
Alors vous vous en êtes rendu compte vous-même, Michel André, en commençant par travailler sur et avec les cachalots. C'était au large des Canaries, cachalots qui étaient fortement perturbés par la pollution sonore humaine. Vous avez mis au point un système de prévention de collision entre navires et cétacés. Il s'agissait de protéger ces cétacés qui communiquent entre eux et qui se dirigent aussi par écholocation, c'est ça ?
Tout à fait. Donc c'était une époque où les cachalots donc, étaient résidents dans cette région-là et les bateaux qui les traversaient les rencontraient. En 1992, un de ces bateaux a percuté un de ces cachalots, un des passagers est mort et la compagnie a décidé de mettre en œuvre des moyens pour essayer de comprendre et de trouver des technologies qui permettaient justement d'éviter ces collisions. Cette étude nous a permis de mettre à jour cette pollution sonore, donc en fait de comprendre que ces animaux étaient perturbés par cette pollution et leur sensibilité avait été diminuée au cours des années et n'étaient plus capables de déceler la présence de ces bateaux qui s'approchaient d'eux. Nous pensions que nous pouvions alerter ces cachalots de la présence de ces bateaux, donc en émettant des sons et qu'ils comprennent peu à peu qu'il était plus avantageux pour eux de laisser la place. Et en fait, nous nous rendons compte que dans un paysage sonore déjà très pollué, ajouter quelques sources sonores supplémentaires n'amenait à rien. Et c'est comme ça que nous avons essayé de tourner ce problème et de pouvoir utiliser justement le fait que les cachalots produisent en permanence des sons et de transmettre leur présence aux pilotes, aux capitaines, qui à leur tour devaient changer de cap pour éviter de les tuer.
Vous voulez réagir, Guillaume Néry, à cet éclairage du bioacousticien Michel André, parce que j'ai l'impression aussi qu'à travers ce livre, À plein souffle, et puis toutes les vidéos, tous les films de vos plongées en apnée, il y a aussi un message pour nous dire, regardez comme c'est beau, important, essentiel, cette biodiversité sous-marine.
Oui, évidemment, de manière sous-jacente, c'est bien sûr présent, bien que je fais très attention à voilà à ne pas me porter en donneur de leçons, parce qu'on est tous responsables finalement. L'activité humaine, elle a plus de limites. L'impact de l'homme n'a plus de frontières. Et ben, on s'en rend compte avec ce témoignage. On va même jusqu'à notre production sonore, elle est perturbée, le fonctionnement de ce qui se passe sous l'eau, dans les grandes profondeurs. Donc il y a un côté très très dramatique là-dedans et effectivement le livre, le film, c'est un hymne à cette beauté qui est encore là mais qui est en grave danger. Je suis plutôt dans les pessimistes moi donc c'est un sujet qui me touche assez profondément.
Et c'est aussi votre quête finalement en apnée, vous disiez, vous plongez en maillot de bain dans des eaux glacées, dans les grandes profondeurs, c'est aussi une quête pour justement nous rappeler peut-être notre vulnérabilité et nos capacités insensées en même temps de faire changer les choses, d'aller là où on ne pourrait pas aller.
Évidemment que oui, derrière toutes ces voilà, tous ces défis, c'est de montrer que oui, tout est possible. Mais je pense que la grande ce qu'il y a derrière ce message de l'apnée, c'est de montrer que il faut dans une ère où on va vers le tout technologique et où il faut faire, construire, fabriquer toujours plus et être toujours plus assisté. En apnée, on prend le contre-pied de tout ça et on y va presque à nu.
C'est le dépouillement
c'est
total.
C'est le dépouillement.
Hein.
Voilà, le dépouillement, l'espèce de vide que l'on doit créer, même notre vide intérieur, se délester des pensées inutiles, futiles, se délester quand on plonge de tout ce qui sert à rien. C'est-à-dire, on y va, bon ben, on prend une paire de palmes, un masque, et puis s'il fait froid, on met une combinaison, et ça s'arrête là. Essayer de se recentrer sur une forme d'essentiel et arrêter de vouloir à tout prix consommer à tout va, c'est ça qui est en train de tout tuer. Hein. C'est cette avidité des hommes à produire, à créer, à consommer. Donc l'apnée, c'est un retour à la simplicité, à une forme de sobriété. Donc voilà, si
vous arrivez à transmettre
ça,
cette sobriété, ce dépouillement à votre fille, là, qui est juste de l'autre côté de la vitre, dans le studio, en train de regarder de très beaux livres sur les animaux.
Bien sûr qu'on essaye. C'est pas facile, parce que on ne vit pas comme des ermites isolés voilà, coupé de tout ce qui se passe. On vit dans un monde où on est dans une société. Cette société, elle a un certain ordre de marche, et puis on peut pas éviter d'avoir des magasins partout, d'avoir des publicités partout. Et donc, du coup, il faut composer avec tout ça.
Vous avez parlé en tout cas beaucoup de plaisir, de joie, de dépouillement, mais aussi d'accomplissement sous l'eau en apnée. Guillaume Néry, à ce sujet, une petite dernière question pour vous. C'est celle du philosophe Charles Pépin, qui était récemment notre invité.
Il m'arrive personnellement de sentir que je viens de l'eau et d'avoir l'impression que la joie de vivre est liquide au fond. Je voudrais savoir si ça vous parle, cette idée d'une joie liquide et non solide.
Ça vous parle, Guillaume Néry, une joie liquide ?
Complètement. Pourquoi ? Parce que le solide, c'est rigide. Le solide, ça ne se déforme pas. Ça a un espace qui est pris et qui ne peut pas s'adapter. Le liquide, finalement, il se faufile. Il va combler tous les espaces. Il va combler le vide. Et la joie, quand elle vient nous pénétrer, elle rentre partout. On a l'impression que l'on est totalement habité par cette joie. Et c'est une très belle image que la joie liquide.
La joie liquide, la joie qui coule et qu'on peut partager avec vous sans même plonger, en regardant ce magnifique livre Guillaume Néry à plein souffle qui vient de sortir aux éditions Glénat. Et puis bien sûr sur internet, toutes vos vidéos tournées avec votre compagne Julie Gauthier valent plus que le détour. Et je signale à nos amis auditeurs et internautes la sortie le 1er février prochain de votre nouveau film One Breath Around the World. Merci d'avoir fait escale sur Terre dans notre studio, Guillaume Néry, et revenez nous faire partager d'autres plongées en apnée.
Avec grand plaisir, merci pour cette invitation.
De la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain autour de la question du sel. Tiens donc, encore un élément que vous connaissez bien, Guillaume Néry, autour de la question pourquoi le sel nous ensorcelle. L'historien Jean-Claude Hoquet nous entraînera sur les routes du sel, de l'esclavage à la mondialisation. Avec Hugo Violas à la réalisation et Tania Tikounas en coulisses, merci de votre fidélité. Surtout, restez curieux. Amis auditeurs, gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, ce sera bientôt l'heure d'un prochain journal.